tout d'un coup, quand il y a un petit problème de parcours, parce que les recettes sont moins bonnes, tout le monde se jette dessus en se disant on va créer du bruit, on va semer la panique partout auprès de nos compatriotes. Je pense que c'est totalement irresponsable.
En ce moment, les finances de la France travaillent les membres du gouvernement pour deux raisons. La première, qui concerne l'actualité, c'est la notation de la dette française par les agences de notation. Si la France se faisait dégrader, ce ne serait pas une super bonne communication. La seconde, c'est que cette année, la France doit refinancer entre 300 et 400 milliards de dettes. Pourquoi est-ce que je dis 400 milliards ? Car aujourd'hui, il s'agit d'une prévision de l'agence France Trésor et que cette prévision n'intègre pas une éventuelle récession qui pèserait très fort sur les rentrées fiscales et divers prélèvements en faveur de l'État. Or, aujourd'hui, c'est bien ce qui étonne le gouvernement. La baisse des recettes alors que « tout va bien » entre guillemets. Certains iront même jusqu'à parler d'une « chute surprise ». Alors que fondamentalement, Bruno Le Maire lui-même donne des éléments clairs de réponse à cette surprise qui n'en est évidemment pas une.
Nos voisins, ils ont connu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, ils ont connu cette inflation et aujourd'hui, finalement, tout le monde réduit son déficit. L'Espagne, par exemple, fait même mieux que ce qui était prévu. Pourquoi eux y arrivent et pas nous ?
Parce que depuis des années, la France est habituée à la dépense publique, ça remonte pas un an ou à deux ans. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que la France n'a pas de compte équilibré.
Comme quoi, le diagnostic n'est pas si compliqué. Et quand on a dans les 400 milliards à refinancer sur les marchés en moins d'un an, on commence à sentir qu'il va falloir s'en préoccuper. Du coup, on peut avoir l'impression qu'il y a une recherche d'économie afin d'équilibrer les comptes.
On regarde avec lucidité la situation, on maintient l'objectif de retour sous les 3% en 2027 et on en tire les conséquences en termes d'économie sur toutes les dépenses, État, dépenses sociales et collectivités locales. C'est ce que je propose.
Alors la question de la réduction du financement du chômage est abordée avec une reprise en main par l'État, selon Bruno Le Maire. Réduction également de l'attrait du RSA en mettant en contrepartie une quinzaine d'heures de travail par semaine. Et le plus beau, selon moi, la déclaration du Premier ministre de baisser la pression bureaucratique et normative en France.
À date, le nombre de mots pour dire des normes sur Légifrance s'élève à 44,1 millions de mots. C'est pratiquement deux fois plus qu'il y a 20 ans. À tous les échelons, il faut débureaucratiser la France.
Mais le souci, c'est que la France est tout à fait impossible à réformer de façon douce pour des raisons simples qu'Emmanuel Macron a d'ailleurs lui-même très bien exposées lors d'un discours.
Alors, je dois dire que quand on se plonge dans le détail, c'est la difficulté pour un président de la République. On dit quelque chose, puis après, c'est normal, hein, c'est la séparation des pouvoirs et autres. À chaque étage, on met des freins. Et c'est pas bon, et c'est bon pour personne. Parce que ça veut dire qu'on a laissé le président de la République dire quelque chose et prendre un engagement, et on s'est accommodé. On a dit on va faire comme on a toujours fait, parce que c'est quand même plus simple. Et donc à chaque étage, on en a un peu enlevé. Il y a des endroits où il y a du droit à l'erreur.
Eh oui, c'est criant de vérité. Le président annonce, les ministres ajustent, les députés amendent, les fonctionnaires émettent des règlements, et les chefs de service écrivent des notes pour que les exécutants sur le terrain, les instructeurs par exemple, essaient de trouver une cohérence finale avec leurs propres ajustements. Et pour respecter toutes les contraintes additionnelles qui ont été rajoutées dans la chaîne de décision, on en conclut qu'il faut embaucher plus de fonctionnaires. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'une administration tend toujours à se complexifier et à augmenter sa taille. Et ce problème ne date pas d'hier.
Il y a toujours eu des fonctionnaires, il y a toujours eu des technocrates. Il en faut d'ailleurs. Mais je crois qu'ils doivent être mis à la place dont ils n'auraient jamais dû sortir, c'est-à-dire celle d'exécutants. Voilà. Et depuis 1974, ils sont à la place des dirigeants.
Alors que faut-il faire ? Eh bien, si on regarde les exemples autour de nous, il y a un économiste devenu président qui a très bien modélisé le chemin à parcourir.
Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política.
Le problème, c'est que structurellement, il est impossible de conduire de telles politiques de simplification, pourtant très simples à conduire techniquement. Car après avoir profité du multiplicateur keynésien qui a permis de booster la croissance économique avec de faux revenus fabriqués avec des déficits budgétaires et de la dépense publique qui n'a pas de sens, il faudra en passer, comment dire, par, allez, appelons-le le diviseur karmique, dans le sens où tout se paye à un moment ou à un autre et qu'il faudra rendre ce qui a été injustement gagné. Les premières années où vous allez faire sauter tous les pans inutiles de ce que Marx appelait la superstructure, vous allez vous retrouver avec des trous dans la croissance colossaux pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'il y a des millions de gens qui vont se retrouver sans boulot, et l'essentiel ne saura pas quoi faire, car ils se retrouvent dans un marché du chômage saturé, et que de toute façon, ils n'ont jamais su produire quoi que ce soit d'utile à la société. Alors on est tous capables d'apprendre et de se réinventer, bien heureusement. Par contre, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et les souffrances seront donc grandes. La seconde raison, c'est qu'il y a des pans entiers du secteur privé, utiles et qui créent de la richesse, qui va y passer avec, car leurs clients étaient de faux clients puisqu'ils dépensaient de l'argent qu'ils gagnaient avec de faux revenus qu'ils obtenaient en créant de la fausse richesse. Alors bien sûr, ces personnes issues du privé auront plus de capacité à se retrouver une place, car lorsque vous êtes utile et que vos clients ont disparu, il suffit, entre guillemets, de retrouver un endroit où il y a une clientèle réelle. Mais quand vous êtes dans un pays qui subit un tel choc, ça prend du temps, car retrouver une place légitime pour tout un chacun, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et à ce stade, on comprend que toute réforme d'une ampleur suffisante de la structure de l'État et de l'économie est tout bonnement impossible tant que le pays n'est pas devenu suffisamment pauvre pour que la souffrance de la population soit supérieure à la souffrance des réformes à conduire à court terme. Dès 2018, je vous parlais de la baisse structurelle de la croissance pour cette raison dans une vidéo que j'avais appelée « Qui a appelé la croissance ?». Ne jugez pas, c'était mes débuts. C'est aussi toute l'histoire du Salvador et de l'Argentine avec leurs présidents si radicaux. Un pays comme le Salvador ne peut accepter qu'un président comme Nayib Bukele envoie 70 000 personnes en prison en l'espace de quelques mois, et donc avec une justice plutôt sommaire de fait. Qu'à partir du moment où le taux de criminalité devient insupportable au quotidien. Bien évidemment que le taux d'innocents en prison doit être important au Salvador dès lors que vous donnez quasiment carte blanche à la police et l'armée pour faire le ménage. Mais la population a accepté avec joie cette délivrance, ce prix à payer car vivre dans un pays où les gangs exécutent des gens que vous connaissez tous les jours et en quantité massive, bah c'est une situation bien pire dont la souffrance vous permet d'accepter des choses qui normalement auraient été inacceptables pour vous. Pour l'Argentine de Javier Milei, c'est la même chose. Comment imaginer qu'un candidat à la présidentielle qui défile avec une tronçonneuse à la main en disant qu'il va virer des millions de fonctionnaires soit élu président ? En France, c'est assez inconcevable. Pourtant, en Argentine, où même les fonctionnaires commençaient à mourir de faim, à un moment, on se dit que oui, il va falloir y aller à la hache, ou à la tronçonneuse dans le cas de l'Argentine. C'est pour cela que les tentatives de redresser les finances publiques n'ont aucune chance d'aboutir quel que soit le gouvernement aujourd'hui. Les Français ne souffrent pas encore assez pour accepter que des outsiders, aussi iconoclastes qu'un Milei ou qu'un Bukele, reprennent les choses en main. Tant que l'on aura des ministres des Finances qui expliquent que le retour à l'équilibre budgétaire se fera en 2027, dans 3 ans, et que la notion d'équilibre signifie 3% de déficit par rapport au PIB, donc en réalité une projection de 30% de déficit par rapport au budget de l'État, eh ben ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je recommande à ce que chacun d'entre nous se questionne sur la pertinence de notre projet de vie à l'intérieur de ce contexte. Est-ce une bonne idée d'aller faire des études d'histoire de l'art après un bac littéraire en espérant devenir prof dans une banlieue compliquée ou fonctionnaire territorial préposé au noircissage de cases Excel dans une mairie ? Ou alors vaut-il mieux apprendre un métier qui vous permettra d'avoir des clients qui sont prêts à payer parce que vous leur rendez un service qui leur est utile ? En termes de patrimoine, c'est la même chose. Vaut-il mieux avoir de l'euro sur une assurance vie bourrée de dettes françaises dont le principal ne sera jamais remboursé, foi d'animal, pour ceux qui ont la ref ? Ou alors, vaut-il mieux internationaliser son épargne en achetant par exemple de l'or, monnaie internationale par excellence, des actions dans diverses régions du monde, ou faire des prêts à des entreprises en développement dans des pays en croissance ? Vaut-il mieux rester en France et vivre bien intégré dans un tissu local, avec un voisinage que vous appréciez ? Ou alors, vaut-il mieux s'expatrier pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs ? Tous les choix et tous les projets de vie sont défendables en soi. Mais attention, car il va y avoir de la casse au milieu. Un autre sujet essentiel, c'est bien d'intégrer que les services collectifs ne fonctionnent plus. Dans les pays qui partent en cacahuète, les retraites ne sont plus payées une fois que l'on considère la dévaluation de la monnaie ou de l'inflation. Les assurances-vie n'assurent plus car l'État a fait faillite d'une façon ou d'une autre. L'école n'éduque plus, l'hôpital ne soigne plus, la police ne protège plus, etc., etc.
Mais c'est de la merde !
Alors si vous pensez que c'est le moment de prendre des assurances face à ce contexte politique et économique inquiétant, peut-être qu'il est temps d'apprendre à construire un patrimoine diversifié ou à renforcer votre patrimoine existant. Et ça tombe bien car on a créé une formation gratuite par email qui vous permet de faire le point sur l'immobilier, les métaux précieux, et surtout à apprendre à composer un portefeuille financier équilibré, composé d'actions et d'obligations. Ne laissez pas des incompétents ou des turbulences économiques décider pour vous de votre avenir. Prenez les choses en main et sécurisez-le. Les liens d'inscription à la formation gratuite sont disponibles dans la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Après, j'avoue, il y a bien une façon d'échapper à un défaut honteux sur la dette. Que l'on se comprenne bien. Rembourser ou faire défaut n'est jamais une option. Cela sera soit l'un, soit l'autre, pas d'échappatoire. Par contre, faire défaut dans la honte et le déshonneur, c'est toujours plus compliqué que de faire défaut sous des apparences honorables. Or, il se trouve que dans l'histoire, la chute des empires se termine souvent par la guerre. D'une part, car personne ne veut s'appauvrir dans le calme et l'harmonie, et d'autre part, car dans certains cas, l'ego des dirigeants est engagé. Dans tous les cas, les guerres sont des grandes constantes de l'histoire des sociétés, et je m'appuie sur les travaux de Ray Dalio pour le démontrer. La fin dans l'horreur, plutôt qu'une horreur sans fin, se traduit techniquement parlant par plusieurs stades. Le premier stade, c'est le déclin économique. Le deuxième, c'est le recours à la planche à billets pour différer la peine encourue de l'appauvrissement. Arrive la troisième étape, les conflits internes, soit des guerres civiles et apparentées, ou alors des conflits externes, la guerre tout court. Et là, enfin, une fois que l'on a tout cassé, la dette est restructurée avec tout un tas de prétextes qui expliquent qu'on ne savait pas, que les événements ont été horribles, sous-entendu que c'est la faute à personne, ou alors que c'est la faute du méchant de service. Et enfin, on aboutit à un nouvel ordre mondial. Pour mettre en perspective ces conditions très générales, voici les dernières déclarations du ministre de la Défense, Le Cornu.
Réquisition, oui, les parlementaires ont permis dans la programmation militaire à ce que, pour les besoins des armées françaises, ou d'un pays allié en guerre, nous y sommes, des réquisitions puissent être faites. C'est des réquisitions soit de personnel, soit de stock, soit d'outils de production. C'est l'outil le plus dur, si j'ose dire, de l'arsenal juridique dont nous disposons. Pour l'instant, il n'est pas sur la table, je l'ai cité parce qu'il existe. En revanche, sur les stocks minimales à constituer pour un industriel, et surtout sur le droit de priorisation d'une commande qui compte pour l'intérêt général, sur une commande qui compte moins pour l'intérêt général, voire pas du tout, c'est quelque chose que je ne m'interdis pas de faire dans les toutes prochaines semaines, si les choses ne vont pas plus vite.
Dans cette vidéo, publiée le 10 mars 2024, je défendais l'idée que la loi de réquisition votée cet été n'était pas anodine et que la France se lançait dans une campagne de guerre. En réalité, voici le cœur du sujet. Jusqu'alors, on pouvait nous mobiliser si le territoire français était attaqué directement. Or maintenant, cette notion de protection du territoire et de guerre a été étendue à la notion de menace militaire qui regroupe de fait des limites bien plus floues afin que le président puisse nous enrôler pour défendre les frontières de l'OTAN par exemple.
Pour les besoins des armées françaises ou d'un pays allié en guerre ou d'un pays allié en guerre
ou d'un pays allié en guerre.
Aussi perdu d'avance que puisse être cette campagne, il n'en reste pas moins que cela restera un coup dur pour tous les Français. Depuis cet été, les personnes qui ont défendu l'idée que ces nouvelles dispositions étaient une préparation à une montée en puissance du conflit avec la Russie étaient traitées de complotistes, de fachos ou je ne sais quoi. Mais on sentait bien que mentalement, ils étaient quand même pas très stables. Alors oui, on peut dire que les critiques étaient mal formulées. Mais en attendant, j'en tire comme conclusion que le bas peuple a quand même un instinct et des intuitions plutôt justes quand on entend les déclarations du ministre de la Défense de cette semaine. Les gens n'ont pas besoin d'intellectualiser au maximum et d'être juridiquement carrés et précis pour sentir qu'on essaie de la leur faire à l'envers. Et pour en revenir au financement de cette dette de 300 à 400 milliards qu'il va falloir refinancer cette année par la France, mais c'est aussi le cas d'autres pays européens, mon sentiment actuel c'est qu'une fois que des réquisitions auront été ordonnées et que nos gouvernants auront déclaré la France ou l'Union européenne en économie de guerre ou je ne sais quoi, la BCE pourrait bien avoir le champ libre pour refinancer cette dette infinançable autrement. Moi, en tant que financier, tout ce que je vois, c'est que la part de la dette française détenue par des étrangers baisse d'année en année et que le poids de la Banque de France qui achète dans le cadre des programmes de la BCE augmente. Concrètement, cela signifie que la France est déjà en train de faire faillite depuis 2015. Gentiment et doucement peut-être, mais le processus de faillite est engagé. Et rappelez-vous bien qu'une dette d'un pays achetée par sa propre population est payée à l'émission de la dette, tandis qu'une dette détenue par des étrangers est payée à son remboursement. Je vous expliquais ça la semaine dernière dans ma vidéo sur le Japon, le pays le moins endetté de l'Occident. Autre point très intéressant et important, ce graphique montre que la dette de long terme française, détenue par les étrangers restants, est de plus en plus petite au profit de la dette de court terme, ce qui signifie concrètement qu'il y a des étrangers qui sont obligés de détenir des euros, donc ils achètent de la dette monétaire, sans risque, en prenant des obligations de court terme, tandis qu'ils abandonnent gentiment mais sûrement la dette de long terme, qui représente un pari sur le potentiel de croissance de la zone économique. Donc tout cela est très grave. Cela fait des années que j'explique comment la France plonge. La crise des mesures anti-Covid et les autres sont des paliers qui accélèrent le processus. Mais l'actualité au quotidien regorge d'exemples où l'on constate le déclassement de la France. Et les médias traditionnels se sont faits à cette idée, car maintenant cela transparaît de partout.
Par exemple, l'écart de PIB entre l'Europe et les États-Unis, c'est 80%. L'Europe, elle a décroché, Christine Lagarde. Un autre exemple qui peut peut-être parler aux gens qui nous regardent ce soir, quel est le lien entre la France et l'IDAO? La richesse de la France, c'est celle du 48e État américain. On a l'impression que l'Europe a perdu cette bataille.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'IDAO, pour les Américains, c'est l'État où on fait pousser les patates.
I have potato blood in my veins. My life, it's potato.
On est loin de la Silicon Valley ou de la Starbase de SpaceX au Texas. Alors l'histoire de la France, 6e puissance mondiale, faudra repasser. Personnellement, et au louchomètre, je dirais plutôt vers la 25e puissance mondiale avec une tendance très claire à la baisse. Et je dis cela en m'appuyant sur les chiffres du FMI qui synthétisent plutôt bien les choses sur ce graphique. C'est dire si c'est officiel. Maintenant, mon louchomètre repose sur tout ce que je lis, je vois, en termes de corruption, d'éducation, de puissance de l'armée, etc. etc. Mais 25e, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc maintenant que l'on sait que le déclassement de la France est acté, et qu'il est soutenu, financé, entre guillemets si je puis dire, à grands coups d'impression monétaire, dites-vous bien que la France est ici sans l'ombre d'un doute. Et si le gouvernement français persiste dans ses velléités guerrières, la prochaine étape est claire comme de l'eau de roche. C'est pour cela que je vous invite à vous questionner sur votre projet de vie. Sachant qu'à l'échelle individuelle, nous sommes insignifiants sur la grande marge de l'histoire, mais qu'à l'échelle de notre projet de vie, nous avons 100% de levier d'action, le combat à choisir me semble plutôt évident. Pour en savoir plus sur la position guerrière et le risque qu'un Emmanuel Macron ou un Le Cornu ou un autre dirigeant français fasse entrer le pays dans la guerre, allez voir cette vidéo où j'explique en substance que vouloir est une chose tandis que pouvoir en est une autre. Les choses ne sont pas si évidentes car bien que la France ait la Commission européenne derrière elle, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, des USA ou même de l'OTAN. Donc la France est aujourd'hui en grande position de faiblesse et ce n'est peut-être pas un hasard si des politiques russes prennent la France systématiquement à partie.